Véronique Riche-Florès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, on va parler avec vous de l'actualité de cette semaine avec la Fed au centre de toutes les attentions. Alors, ces mots MOTS de la Fed, ces nouveaux mots, comment vous les avez analysés, vous, après cette communication donc, de la Réserve fédérale américaine?
Je dirais sans réelle surprise, je m'attendais effectivement à ce que la Janet Yellen et la Fed soient extrêmement prudents et ne précipitent pas les anticipations d'une remontée des taux. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, d'abord, il était important effectivement que la Fed reprenne un peu de marge de manœuvre. Donc, le retrait du mot patient, le fameux, me semble opportun dans le contexte actuel. C'est vrai que la conjoncture cycliquement par rapport aux cycles antérieurs donne tous les éléments pour normalement amorcer une hausse des taux. Donc, on enlève ce mot et on se dit on est prêt à le faire si nécessaire. En revanche, la situation conjoncturelle américaine est beaucoup plus compliquée. On voit que tous les indicateurs récents ont déçu et significativement. On constate que les ménages commencent à épargner, ce qui est complètement atypique, mais qui fragilise bien évidemment les perspectives de croissance de la consommation. L'emploi résiste, c'est bien d'ailleurs le seul domaine dans lequel on ait une persistance de bonnes nouvelles, mais ça veut dire que si l'activité s'accélère pas, les entreprises perdent en productivité, ce qui sera pas bon pour l'investissement ni pour l'emploi de demain.
Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même cet aspect, comme à d'autres périodes d'ailleurs, météo, puisqu'on a eu une vague de froid, qui pourrait peut-être cacher de meilleurs chiffres à venir?
Alors, on a toujours des situations un peu en dents de scie qui peuvent être effectivement fragilisées par des aspects météo. Je pense aux dernières statistiques de mise en chantier de logement, probablement qu'il y avait un aspect météo assez important quand on regarde le détail. Néanmoins, la détérioration des données économiques, elle date pas de ces 2 ou 3 dernières semaines. Elle est vraiment plus inscrite dans la durée de ces derniers mois. Et ce qu'on constate effectivement, ce qui moi m'interpelle beaucoup, ce sont ces deux facteurs. Remontée du taux d'épargne des ménages, et il y a beaucoup d'éléments effectivement qui suggère que depuis longtemps du reste, mais on avait un petit peu oublié parce que ça s'est jamais concrétisé jusqu'à maintenant, mais qui suggère effectivement cette remontée du taux d'épargne des ménages. Et puis l'autre pendant, c'est du côté des entreprises, baisse de la productivité, donc mauvais pour l'investissement de demain. On n'a toujours pas eu de rebond de l'investissement qui permette d'avoir des perspectives de prolongement de ce cycle. Donc finalement, on a bien un contexte qui est mou, qui correspond de plus en plus à un contexte de fin de cycle. Donc, il serait dangereux effectivement d'amorcer une hausse des taux, d'autant qu'on est en désinflation ou en déflation au pied de la lettre, c'est-à-dire une inflation négative. Les taux d'intérêt réels à 10 ans, ce qui importe pour l'activité économique, sont déjà aux alentours de 2,5%. C'est rigoureusement la croissance sur 4 trimestres de l'économie américaine. Donc, on est aux normes. Aller au-delà serait vraiment amorcer une phase de restriction monétaire, ce qui veut dire aussi un risque d'envolée supplémentaire du dollar. Et là, je pense qu'il serait de bon ton, effectivement, de pouvoir envisager une stabilisation pour voir un petit peu les effets. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, non seulement la Fed nous dit ce sera pas avril, mais les chances que ce soit juin sont minimes, celles que ce soit septembre sont également très faibles, et in fine, mon sentiment à moi, c'est que la probabilité que la Fed réussisse à remonter ses taux d'intérêt avant la fin de ce cycle est très réduite.
Donc quelque part aujourd'hui, compte tenu de cette économie peut-être de fragilité ou de peut-être complexité finalement de cette reprise économique, la Fed finalement se redonne des marges de manœuvre, mais va pas forcément utiliser son arme effectivement de hausse de taux.
En fait, elle se donne l'aptitude à agir si jamais quoi. Ben, si jamais on a une envolée à nouveau des prix du pétrole qui infléchit les tendances inflationnistes, si jamais au niveau salarial on commence à percevoir des pressions salariales avec un taux de chômage à 5,5%, ça pourrait arriver, et des pertes de productivité également. Mais en réalité, ça arrivera probablement pas. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer en termes d'inflation et de sous-jacence inflationniste. Donc elle reprend cette latitude en disant « je serai là si nécessaire ». Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Et les anticipations d'inflation, avant que celle-ci se redresse et qu'elle nous donne un message crédible d'une remontée de hausse de l'inflation à 2%, à mon avis, il va s'écouler beaucoup de temps.
Quelque part, elle est pragmatique, c'est sa stratégie.
Tout à fait. Et elle a tout intérêt, je crois, à ce stade du cycle, et avec les désordres monétaires, en particulier la hausse du dollar, l'effondrement du prix du pétrole qui, on le sait, a un impact négatif sur l'activité américaine. Donc oui, tout à fait.
Oui, puisqu'on a beaucoup parlé de cette guerre des échanges, avec justement des politiques potentiellement divergentes des banques centrales et avec cette envolée du dollar.
Tout à fait. Et le risque, si on bouge, si la Fed bouge un petit peu aujourd'hui, c'est qu'elle ouvre la porte à des anticipations de mouvements additionnels par le futur, 2, 3, 4, selon les cas, les économistes. Mais cette seule formation d'anticipation veut dire des hausses de taux donc supplémentaires et un risque d'envolée supplémentaire du dollar qui non seulement commencerait à poser des problèmes aux États-Unis, mais qui, on le voit, est source d'inquiétude, de soucis, de difficultés pour un grand nombre de pays émergents et donc finalement de fragilisation encore additionnelle d'un environnement mondial qui est quand même caractérisé par effectivement pas mal de difficultés.
Alors si on repasse de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la BCE, du coup c'est qui semble se passer du côté de la Fed, est-ce que ça change quelque chose pour Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui lui est aujourd'hui dans une autre démarche clairement?
Je ne pense pas que ça change grand-chose, si ce n'est peut-être en atténuant les pressions baissières sur l'euro, à un moment donné où effectivement la baisse de l'euro, depuis le début de l'année, finit par poser question. Quant à l'impact du quantitative easing et au risque de voir dévisser tout simplement la monnaie unique, notamment si le dossier grec aboutit à une impasse, ce qui est quand même dans le champ des probabilités qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Donc effectivement, il y a quelques jours, on pouvait se dire, mais si la Fed remonte ses taux d'intérêt et que le dollar s'apprécie davantage, est-ce que la BCE pourra tout simplement aller jusqu'au bout, au terme des 18 mois de quantitative easing? Ça me semble pas du tout évident, alors que les perspectives d'activité s'améliorent. On constate que les prix d'importation se tendent également, donc il y aura certainement une dissipation au moins temporaire des pressions déflationnistes. Donc tout un tas d'éléments qui effectivement commencent à créer d'ailleurs l'inconfort d'un certain nombre de membres du board de la BCE dont on n'a pas de mal à deviner les origines, mais qui soulèvent une vraie question effectivement. Puis on voit les effets sur les marchés, qui dans un premier temps, les marchés financiers sont bienvenus, qui s'ils vont trop loin peuvent également susciter de l'inquiétude. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est indirectement, effectivement, ces mouvements et la formation des anticipations sur ce que fera ou non la Fed peut avoir une influence indirecte sur la BCE.
Au global, il y a toujours des craintes sur la croissance économique globale. On n'a pas parlé de la Chine, mais on a vu qu'il y avait une espèce de panne, entre guillemets, ou en tout cas que c'était plus la croissance avec ces phénomènes-là. Est-ce que ça veut dire que la croissance mondiale risque d'être un petit peu chaotique ?
Alors, c'est la difficulté, c'est ce qu'on constate ces dernières années, finalement c'est assez intéressant mais assez inquiétant également, c'est que finalement la croissance des échanges mondiaux est étale, elle est quasiment à zéro depuis 3 ans, un petit peu plus, à peine supérieure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une économie qui, portée par des évolutions de change, des politiques monétaires, etc., s'en sort un peu mieux que les autres. Alors les autres, c'est quoi? En gros, on a une économie en 3 blocs, les États-Unis, l'Europe et puis la Chine, pour simplifier, la Chine et les émergents. Quand les États-Unis se portaient bien, on a bien vu que c'était au détriment des Européens et un peu des émergents. Aujourd'hui, l'Europe se porte mieux et ça semble être quand même au détriment de pas mal de pays d'émergents et également des États-Unis avec l'effet du dollar. Et c'est un peu cet environnement où le gâteau mondial, le gâteau de la croissance mondiale est insuffisant, ça croît de manière insuffisante et quand il y en a un qui gagne, les autres perdent un peu. Et on n'arrive pas à s'en sortir, à retrouver une dynamique où tout le monde évolue de concert et ça c'est le reflet effectivement des problématiques structurelles, des problématiques de surendettement, des politiques monétaires qui également vont très loin et ont créé des déséquilibres incontestablement. Donc oui, la réponse à votre question, c'est qu'effectivement l'environnement mondial est encore sujet à risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde ce qui se passe en Europe, on est réjoui. Si on prolonge en regardant ce qui s'est passé en général dans les phases de reprise, notamment avec des baisses de l'euro, baisses du prix du pétrole, eh bien on peut être très optimiste. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quels seront les freins qui viendront du reste du monde? Peut-être du monde émergent, mais également maintenant, peut-être des États-Unis. Il me semble que là, il y a une question clé pour 2016.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Véronique Riche-Flores.
Merci à vous.